Mieux pour investir, le déchiffrage.
Avec Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Bonjour Christian.
Bonjour Antoine.
Félix Baron du club des investisseurs indépendants. Bonjour Félix.
Alors, bonjour Antoine.
C'est vrai que c'est une de nos grandes thématiques là, ces dernières séances. C'est de l'air. On va regarder du côté des pays émergents.
Bien sûr.
Mais on a l'impression, et énormément d'analystes, d'investisseurs et de gérants qui s'occupent des marchés émergents nous le disent, on est un peu face au syndrome Magnificent Seven. On regarde des émergents qui sont de plus en plus concentrés sur certaines zones, certains indices et notamment certaines valeurs. Le cas le plus emblématique, c'est du côté de la bourse de Séoul, où voilà, on a une valeur qui semble faire la tendance. Bon, il y a quand même un éléphant dans la pièce qui s'appelle Samsung, mais voilà, au-delà de ça, il y a aussi la formidable histoire d'SK Hynix, le spécialiste des mémoires vives. Donc voilà, on a un paysage à la fois porteur, mais qui se retrouve avec les mêmes problèmes que nos valeurs traditionnelles, c'est-à-dire qu'on est concentré sur un certain nombre de points précis, en fait.
Bah, tant que la demande pour la tech et pour l'IA continue, tout va bien. Ce qui est intéressant, c'est que je vais parler de deux places boursières, Taïwan et la Corée, c'est devenu deux baromètres, ou un seul baromètre, de la croyance des investisseurs mondiaux dans l'intelligence artificielle. Depuis le début de l'année, l'indice Kospi, à Séoul, et l'indice TAIEX à Taïwan, c'est plus 61% et plus 39% respectivement. Vous le comparez avec le SP500 ou le Nasdaq qui sont à 5 et 8%. Donc clairement, on ne joue pas dans la même cour. Ouais. Et aujourd'hui, Taïwan et la Corée sont devenus le troisième et le quatrième marché boursier mondial en termes de capitalisation. Ouais. Il y a les États-Unis à 73 000 milliards de dollars, on ne va pas les chercher. La Chine à 11 000 milliards, on peut comprendre, ils sont beaucoup. Mais derrière, vous avez Taïwan, 4,5 milliards. Vous avez ensuite la Corée du Sud. En dessous, l'Inde, et je ne parle pas de la France et du Canada, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Qui sont
On est très loin. Ouais, de plus en plus.
Donc, c'est des places boursières qui ont changé de dimension grâce à l'IA, grâce à la tech. On peut le comprendre parce que ces économies, c'est vraiment des marchés équipementiers qui couvrent le hardware, donc le haut de la chaîne de valeur, vraiment l'amont, avec la mémoire et la pénurie qu'on connaît, les semi-conducteurs, c'est par la pénurie qu'on connaît, les serveurs de data center, des substrats, de l'infrastructure électrique. Mais attention, comme vous l'avez dit Antoine, ce sont quelques géants qui tirent tout l'ensemble.
Ouais.
Vous regardez Samsung plus SK Hynix, comme vous l'avez dit, c'est 42% de l'indice Kospi. C'est plus fort que notre concentration du luxe dans le CAC 40.
Ah,
donc vous avez deux boîtes qui font 42% de l'indice. Mmh. À Taïwan, TSMC, donc on le sait, elle fait les puces pour Nvidia, pour Apple, AMD, Broadcom, c'est 45% de l'indice TAIEX. Vous avez, allez, si on rajoute Delta Electronics et Foxconn, vous avez les trois boîtes qui font la bourse de Taïwan. Donc, ce n'est pas les bourses taïwanaises et coréennes qui battent des records, c'est trois entreprises de l'IA qui battent des records grâce à un marché de pénurie. Donc, on a aujourd'hui deux marchés boursiers qui sont deux marchés, attention, à effet de levier sur l'IA. Effet de levier qui s'explique sur deux piliers, je vous l'ai dit, la pénurie de mémoire d'un côté, donc c'est ce qui pousse à la hausse SK Hynix par exemple et Samsung Electronics en Corée, et des puces, puisque je vous rappelle que c'est pas Nvidia qui fait les puces, Nvidia elle fait les systèmes, mais les puces et les semi-conducteurs sont faits par TSMC à Taïwan. Donc un marché effet de levier, c'est très puissant. Hein. On parlait de SK Hynix sur ce plateau en décembre. C'est plus 161% l'action depuis le mois de décembre. Mais si c'est à effet de levier, c'est donc que c'est aussi risqué, très risqué. Parce que si vous achetez la bourse taïwanaise aujourd'hui ou la bourse coréenne, vous avez zéro diversification. Les indices, souvent composites, donnent une impression de solidité, une impression de diversification. Ça peut être vrai pour le SP500, ça peut être vrai pour le CAC 40, mais à Taïwan et en Corée, en fait, tous les œufs sont dans le même panier. Donc, tant qu'on dépense pour l'IA, ça va. Tant que vous avez des hyperscalers, donc des Microsoft, des Oracle, des Amazon, des Meta, etc., Google, qui continuent d'investir dans les data centers, c'est bon. Parce que globalement, si vous investissez dans les data centers, ça veut dire que vous allez acheter des composants de serveurs, des substrats, des semi-conducteurs, de la mémoire. Donc c'est pour ça que si vous voulez continuer à investir sur ces marchés taïwanais, coréens, pourquoi pas, mais surveillez donc pour moi les rapports trimestriels des hyperscalers tant qu'ils annoncent qu'ils vont faire des capex sur les data centers.
Et c'est le cas en ce moment.
Et c'est le cas. Ouais. Mais il y a aussi des risques parce que si Nvidia, ça pourrait arriver un jour peut-être, commence à décevoir sur ses commandes, On ne sait pas, ça peut arriver. Mais surtout si le prix de la mémoire, la fameuse HBM, se retourne. Parce qu'aujourd'hui, le prix de la mémoire qui fait monter Micron Technology ou SK Hynix, il est lié à un marché de pénurie.
Et on se souvient qu'il y a une dizaine d'années, on avait eu un crack sur le prix des
mémoires. Bien sûr, mais le prix de la mémoire, c'est comme une commodity aujourd'hui.
Voilà, c'est ça.
C'est, ça pourrait être pareil sur la tonne de fret. C'est juste, ça dépend d'un marché qui en ce moment est en pénurie. Et surtout, s'il y a un risque géopolitique qui d'un coup remonte très fort à Taïwan, qui, on le sait, n'a pas des relations de velours avec la Chine. Là, attention, parce que ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une remise en question tout en haut de la chaîne de valeur, avec un doute et des questions qui redescendent tout en aval, avec des questions, par exemple, est-ce qu'en fait, on a bien anticipé la demande en IA? Est-ce que la chaîne des semi-conducteurs, elle n'est pas trop chère? Est-ce que les valos ne sont pas trop élevés? Parce que là, je vous ressors le Buffett Indicator. Donc, le Buffett Indicator, c'est capitalisation d'une place boursière sur le PIB. Les États-Unis, c'est 213%. Voilà, la bourse vaut à peu près deux fois le PIB. Taïwan, c'est 458%. Donc là, c'est trop cher. La Corée, c'est 209%. Parce que Samsung est beaucoup plus conglomérale. Et la France, 108%, c'est très raisonnable. Oui. Donc, s'il y a des inquiétudes, elles vont se transmettre. Elles vont se transmettre à Nvidia, elles vont se transmettre à Broadcom, à AMD, etc. En aval, donc, il faut vraiment surveiller ces marchés effets de levier qui peuvent être, encore une fois, très intéressants. Mais n'oublions pas qu'il y a un deuxième tranchant qui est plus risqué.
Mais on se souvient d'un tweet intéressant dont on avait parlé dans cette même émission, d'un investisseur saoudien assez connu qui tweete des choses pas mal et qui disait, en fait, vous croyez investir sur l'IA, vous investissez sur le risque taïwanais.
Oui, non, mais ça.
Et le point de vue était pas mal senti. Christian Fontaine, une petite réaction à tout ça.
Oui, les marchés émergents sont en fait repartis à la hausse depuis environ un an, doit être quelque chose comme autour de 20%, et depuis le début de l'année aussi, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Enfin, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un rebond technique, un rattrapage, j'oserais dire, ou un véritable réveil? Et je pense qu'il est quand même un peu trop tôt pour parier sur un réveil durable. Il me semble, en tout cas, que pour l'instant, les marchés émergents doivent rester un marché de diversification, un investissement de diversification à hauteur de 5 ou 10% pas plus. En fait, si on prend un tout petit peu de recul, les marchés émergents ont connu une heure de gloire il y a une vingtaine d'années, avec des progressions très spectaculaires à deux chiffres. Et puis ensuite, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les marchés occidentaux ont largement surperformé les marchés émergents, et ça fait quand même une quinzaine d'années que ça dure. Bon. Avec des deltas de variation très, très significatifs. En fait, aujourd'hui, on est dans des marchés, depuis des années, dans des marchés de liquidité, et pas dans des marchés de fondamentaux. Et donc, les marchés qui progressent, c'est les marchés qui attirent les capitaux, et typiquement, c'est les marchés américains depuis des années. Est-ce que on va assister, vous savez, à un phénomène de vase communicant? On y croit pas mal souvent en matière de gestion. Après les États-Unis, est-ce que c'est la zone asiatique? Il y a quelques années, les gérants vous disaient, mais aujourd'hui, peut-être que les marchés américains doivent peser 40 ou 50% d'un portefeuille. Mais moi, je suis prêt à prendre le pari que dans 5 ans ou 10 ans, il faudrait être investi à hauteur de 40 ou 50% sur les places asiatiques. Je pense que
c'est jamais arrivé.
Ouais. Je pense qu'il faut éviter. Enfin, pour l'instant, les marchés émergents n'ont pas encore véritablement prouvé que sur le long terme, ils pouvaient devenir une classe d'actifs aussi solide que les actions des pays occidentaux, les actions européennes ou les actions américaines. Donc oui, aux marchés émergents, mais je dirais on reste quand même dans une proportion de 5 à 10% du portefeuille. Ouais. Et on reste diversifié. Alors Félix citait des titres en direct. Nous, pour au revenu, pour ce type de classe d'actifs, on reste quand même assez fidèle aux ETF. Il y en a des très bons avec qui prennent 0,2, 0,3% de frais de gestion. Et c'est vrai qu'il n'est pas forcément très facile de savoir la distance n'aidant pas sur quel support investir à Taïwan ou en Corée.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on se retrouve avec ce fameux phénomène de concentration, encore plus si on prend des ETF, parce que là, pour le coup, on est un peu sur la moyenne pondérée de tout, qui est très disparate, mais au milieu duquel il y a deux, trois éléphants dans la pièce. Est-ce que vous pensez que ça peut être un risque aussi, Félix Baron?
Non, parce que dans tous les cas, c'est une moyenne pondérée, c'est une moyenne surpondérée, globalement.
Oui,
si vous investissez sur un indice, donc via un ETF sur ces marchés-là, Taïwan ou Corée, ça revient à investir à deux tiers ou même peut-être un peu plus sur Samsung, SK Hynix en pondération en Corée et sur TSMC, et donc Delta Electronics et Foxconn, avec un peu de diversification, parce que Delta Electronics, ça fait du refroidissement de serveurs, Foxconn, des iPhones, mais pas que, des composants aussi pour smartphones, pour la chaîne mondiale. Moi, j'ai une passion pour le stock picking. La version ETF, elle se défend aussi quand on n'est pas tous les jours derrière son écran à aller choisir les entreprises.
Et Antoine, l'argument que vous mettez en avant, c'est un argument qui est mis en avant par les détracteurs des ETF. Mais ceci dit, un ETF, c'est quand même par définition excessivement diversifié. Alors, peut-être que l'ETF MSCI Emerging Market est un peu moins diversifié qu'il ne l'était il y a 6 mois ou il y a 1 an. Il n'empêche que vous investissez quand même dans des centaines de valeurs. Donc, ça reste, je dirais, un excellent outil diversifié pour investir sur ce type de marché. Et encore une fois, on n'hésite pas, puisque Félix parlait des valos tout à l'heure, notamment sur certains marchés asiatiques, on n'hésite pas, on met de la DCA en place, donc l'investissement progressif sur ce type de marché comme sur les autres.
Mais une fois qu'on est bien réparti, c'est sûr. Du côté de la volatilité de marché, c'est vrai que bon, ça baisse, ça monte. Là, en ce moment, on a quand même des indices qui sont un peu paumés, notamment en Europe. On voit que ça résiste un petit peu mieux du côté des États-Unis. Et on voit qu'il y a une grosse volatilité sur les taux obligataires là, en ce moment. La question reste la même. Comment on se protège alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer?
Alors, vous parliez de volatilité boursière. Moi, j'aurais tendance à dire, même au-delà de il y a la volatilité de l'information, tout simplement. Enfin, jour, la guerre est finie ou sur le voie d'être finie au Moyen-Orient. Le lendemain, donc, Donald Trump affirme et menace l'Iran de déverser des milliers de bombes. D'un jour, le pétrole est à 115, 110 dollars le baril. Le lendemain, on est plutôt autour de 90. Donc, comment voulez-vous baser, je dirais, une stratégie d'investissement cohérente en se basant sur ce type d'informations? Je pense qu'en période de crise comme aujourd'hui, il faut l'erreur à ne pas commettre, c'est de surréagir et d'essayer de se repositionner à chaque fois qu'il y a une nouvelle information qui risque de toute façon d'être contredite dans les 24 heures qui suivent. C'est pour ça que surtout, il faut éviter toute surréaction. Alors, pour répondre à votre question, comment se protège. Il y a eu les fameuses communications de Berkshire Hathaway sur les résultats du premier trimestre où ils ont rappelé qu'ils détenaient près de 400 milliards de cash. Donc on rappelle que la capitalisation boursière de Berkshire Hathaway, c'est pas le montant total des positions, mais est autour de 1000 milliards. Donc ça donne quand même un peu une idée du cash. Au revenu, oui, on recommande de détenir un petit peu de cash. Dans notre portefeuille prudent, on est autour de 20%. Dans notre portefeuille équilibré, on est à 15% de liquidité. Donc oui, bien sûr, on se protège, il faut avoir du cash. Mais aussi, bien sûr, les valeurs refuges, quoique... Là-dessus aussi, il y en a deux que je mettais souvent en avant sur votre antenne. C'est bien sûr le secteur de la défense et le secteur du pétrole. J'aurais quand même tendance à considérer qu'aujourd'hui, compte tenu la valorisation du secteur de la défense et compte tenu de l'évolution, par exemple, du cours de certaines pétrolières Total en tête, c'est plutôt pas un mauvais moment pour commencer à prendre ses bénéfices. Vous avez bien vu, en tout cas, un bénéfice partiel. Vous avez bien vu, par exemple, que Thales a mal réagi aux résultats du premier trimestre qui étaient plutôt quand même de très, très bonnes factures.
Rheinmetall, ce matin, forte baisse aussi.
Sur Total, depuis le début de l'année, de mémoire, en tout cas il y a quelques jours, c'était encore la plus forte progression du CAC 40. On doit être entre 40 et 50% de hausse. Donc, petite prise de bénéfice, à mon avis, ça me semble intéressant. Alors, la dernière fois que j'étais venu sur votre antenne, on avait beaucoup parlé éventuellement des opportunités, des bons coups à réaliser. En fait, il faut bien voir que, autant le marché avait perdu, le CAC 40 avait perdu quelques 8% au mois de mars, c'était l'un des pires mois boursier depuis 5-6 ans, eh ben, autant le marché a déjà rebondi bien en avril puisqu'on on frôle les 4% de hausse. Donc c'est vrai qu'il y avait des tas de valeurs du CAC 40 qui avaient baissé de quasiment 20%. Vous citiez tout à l'heure Vinci, on aurait pu rajouter BNP. Aujourd'hui, il y a moins de valeurs, il y a encore Safran qui a baissé de plus de 20% par rapport à ses sommets. Donc j'aurais tendance à dire aujourd'hui, alors peut-être un petit peu de Safran, peut-être un petit peu de SEB. Vous avez bien vu que une valeur qui est moins suivie qu'auparavant, qui a connu un parcours très difficile l'année dernière. mais qui commence maintenant à se stabiliser dans la zone des 45 à 50 dollars. Pourquoi pas en mettre une petite ligne en portefeuille, je dirais. Mais surtout, en période de crise, et même si ce n'est pas très vendeur pour une émission qui s'intéresse à la bourse ou au placement, attention à ne pas surréagir. Souvent, la meilleure réaction en période de crise, c'est de ne pas réagir, justement pour éviter la fameuse porte de saloon, c'est-à-dire de prendre la baisse et de ne pas prendre la hausse qui suit.
Exactement. Quand on se met trop à l'abri, on se met à l'abri aussi des reprises des marchés qui sont là en ce moment nécessairement violentes vu qu'on est sur des plus hauts, on continue à progresser. Donc si on se protège trop, on finit par plus rien gagner.
Si on s'agite trop, surtout je regardais, on est le 5 mai, depuis le début de l'année, je n'ai pas acheté une seule action. Je n'ai acheté qu'un seul actif, c'est de l'or. J'ai acheté de l'or régulièrement, j'achète toujours en dossier, je m'en cache pas. Parce que, après, c'est comment se protéger de la volatilité. Si vous avez de l'infrastructure, quelle que soit son exposition, infrastructure portuaire, infrastructure aéroportuaire, infrastructure énergétique, infrastructure de l'IA, vous êtes protégé. Si vous avez un peu d'immobilier coté, vous êtes protégé. Si vous avez de l'or et du pétrole, ou en tout cas de l'énergie, vous êtes globalement protégé. Et le reste, vous pouvez, avec le reste, j'allais dire jouer, vous pouvez placer sur d'autres titres vifs. Mais attention à une chose cependant, si vous vendez des titres, si vous récupérez du cash, le cash que vous allez avoir maintenant perdra nécessairement de la valeur par rapport à la fin de l'année. Parce que l'inflation est en train de repartir avec les prix de l'énergie. Hein. Choc d'offres en plus sur l'énergie, c'est la pire inflation parce qu'il n'y a pas de valeur qui progresse en face. Donc attention à ne pas avoir trop de cash en se disant « j'ai ça dans un bas de laine, une poire pour la soif ». Bah, malheureusement, 10 000 euros du début de l'année ne seront plus 10 000 euros à la fin.
Ouais, franchement, si on cherche à trop se protéger, on finit par être
contre-productif. Il y a une seule question à se poser, en fait. Est-ce que votre exposition au risque action est, je dirais, compatible avec votre profil d'investisseur ? Dit comme ça, ça fait un peu théoricien, mais, très concrètement, si vous pouvez vous permettre de rester investi et vous savez que l'argent que vous avez en bourse, que vous détenez en bourse, vous savez que vous n'en aurez pas besoin au cours des 3 ou 4 prochaines années, restez investi. Si maintenant vous avez une grosse dépense à venir et que vous comptez sur vos actions pour la financer, il ne faut pas hésiter à prendre en partie vos bénéfices.
Et puis, avec les bonnes enveloppes fiscales, mais ça, on va y revenir dans la boîte à outils avec vous, Christian Fontaine, vous nous faites l'amitié de rester, on en parlera dans quelques minutes. Avant de vous quitter, Félix Baron, Club des investisseurs indépendants, grosse question depuis des semaines, des mois sur les marchés actions. Est-ce que l'IA va détruire ou construire de la valeur petit bouquin là qui sort dans pas très longtemps, intéressant, qui s'appelle « L'IA s'enrichir ou disparaître ».
Très bon bouquin, puisque c'est moi qui l'ai écrit.
Je crois que tout est dit, en vrai.
Le titre est radical, mais le sujet ne l'est pas moins. Ne l'est pas moins. Les opportunités ne le sont pas moins. Et ce que je propose en 10 chapitres et en un peu moins de 200 pages, c'est de faire comme Warren Buffett, comprendre dans quoi on peut investir. Ouais. Si vous comprenez d'où ça vient, comment ça marche, vous allez mieux comprendre les piliers qui portent la révolution, que c'est pas juste un sujet d'algorithme et de logiciel, et que vous allez pouvoir vous construire peut-être un portefeuille entre guillemets permanent 4 saisons sur la technologie et tout l'écosystème autour de l'IA. Et c'est vraiment dans ce but-là que j'ai construit ce petit bouquin qui sera très rapidement disponible sur. Vous pourrez trouver très rapidement Félix Baron livre IA sur Internet. Vous trouverez, et c'est aux éditions Panthéon Recherche.
L'IA s'enrichir ou disparaître. Merci Félix Baron, Club des investisseurs indépendants. Et on...